plus facilement au fond.
Je crois au système américain, je crois aux banques américaines, je crois en notre façon de faire les choses.
Au cours de cette semaine, les autorités américaines ont pris les devants pour alimenter la ressource la plus précieuse sur les marchés, la confiance, seul rempart contre une contagion à grande échelle.
Merci beaucoup, Didier Dico. Place maintenant à nos invités pour discuter de tout cela. À Washington, D.C., nous avons Nicolas Véran, chercheur à l'Institut Peterson d'économie internationale, toujours dans la capitale fédérale américaine. René Lake, analyste politique consultant, et dans le Maryland, précisément à Annapolis, Jean-François Seznec, économiste et politologue, directeur de Lafayette Group. Merci à tous d'être avec nous. Alors, Nicolas Véran, est-ce qu'on doit s'inquiéter que trois banques que la majorité d'entre nous n'avait jamais entendu parler avant déposent bilan? Est-ce que ça doit nous inquiéter?
Oui et non. Non dans l'immédiat, puisque les autorités américaines, comme vous l'avez noté, ont pris des mesures extrêmement énergiques, à mon avis trop énergiques d'ailleurs, avec des effets induits à l'avenir qui peuvent être problématiques. Mais dans l'immédiat, il n'y a aucun risque sur les dépôts des Américains, les dépôts même des entreprises, puisque en fait ce qu'ont fait les autorités, c'est qu'elles ont garanti les dépôts sans limite, ce qui à mon avis est une petite révolution dans l'ordre bancaire américain, avec des conséquences potentiellement négatives, mais qui dans l'immédiat ramène la confiance. Le problème, c'est que ces banques n'auraient pas dû faire faillite. Elles auraient dû être surveillées d'une manière qui permette d'éviter ça, notamment Silicon Valley Bank. Et donc, aujourd'hui, c'est la réputation de la Réserve fédérale américaine en tant qu'autorité de surveillance bancaire qui est un peu entachée, disons, parce que la Réserve fédérale avait une très bonne réputation comme autorité de surveillance et maintenant elle a beaucoup de questions ouvertes à laquelle elle n'a pas encore vraiment répondu sur pourquoi elle a laissé cette situation se développer au cours des dernières années.
Alors, Jean-François Seznec, pourquoi ce qui se passe ici aux États-Unis doit intéresser le reste du monde, même si on parle pour l'instant de banques régionales ou en tout cas aux ramifications internationales limitées?
Oui, effectivement, ça pourrait peut-être créer une panique mondiale, mais franchement, j'en doute fortement parce que d'abord, les banques qui ont fait faillite sont assez petites et le système américain est tel qu'il y a quand même des spécificités au marché américain dues au grand nombre de très petites banques, et ça c'est quelque chose qui dure depuis déjà 1929, hein, depuis la grande récession. Mais je pense pas que ça se propage en Europe, surtout pas en Europe. Et je vois mal vraiment la panique se généraliser.
On a donc vu le Crédit Suisse déjà, quand même un peu secoué, non?
Oui, mais ils avaient déjà des gros problèmes avant. Et effectivement, les banques qui ont des problèmes en ce moment vont être un peu plus sensibilisées au sens où beaucoup de gens vont commencer à enlever leurs dépôts. Mais il faut voir aussi que la Banque centrale suisse a rajouté 54 milliards de dollars ce matin sur les comptes sur la capacité de Crédit Suisse de suivre. Donc je pense que toutes les grosses banques européennes, parce qu'en fait en Europe il n'y a que vraiment des grosses banques, vont vraiment survivre sans aucun problème.
D'accord. Alors René, pour beaucoup, il y a un peu cet effet psychologique, n'est-ce pas? En 2007-2008, beaucoup d'épargnants et d'investisseurs ont perdu leur argent. Pensez-vous que les autorités fédérales ont bien communiqué pour assurer le public qu'il n'y a pas de risque de contagion? Et quelle est un peu la place des réseaux sociaux dans tout cela? On parle de Twitter.
Oui, Abdulrahman, je crois que pour une fois, on peut dire que le gouvernement a réagi très très rapidement et à bonne hauteur, à mon avis, parce que c'est vrai que le fait qu'il ait tout de suite annoncé qu'il y aurait une garantie que tous les dépôts des clients de ces deux banques, ensuite de la troisième, parce qu'il y a aussi la Silvergate aussi qui était en faillite également, mais c'est une toute petite banque, hein, 11 milliards de dollars d'actifs. Alors, sur ce point-là, il faudrait quand même que, pour qu'on puisse, que vos auditeurs puissent, les téléspectateurs puissent relativiser ce dont on parle ici. On parle ici de banques moyennes, hein, même petites, si on prend Signature Bank, comparé à, je ne sais pas moi, JP Chase Morgan, qui est à 4 000 milliards, donc 4 trillions, 4 000 milliards d'actifs. La SVB était à 200 milliards d'actifs. Donc vraiment, ce sont des petites banques régionales. Citibank est à plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs. Donc on est là dans des proportions très très différentes. Donc ce sont des petites banques. C'est un tout petit, même pas tsunami, un tout petit tremblement de terre. Mais ce n'est pas déterminant. Et encore une fois, le gouvernement, en garantissant l'ensemble des dépôts des clients, donc à titre individuel comme des entreprises, pour ces deux banques-là, a évité effectivement une perte totale de confiance. Et j'ai suivi quelques chefs d'entreprise qui sont maintenant rassurés. J'en ai même vu dans votre reportage, il y en avait tout de suite qui disaient que bon, ils ne comptaient même pas quitter la banque.
D'accord. Alors, Nicolas Véran, la confiance est quand même déterminante dans tout système bancaire, et la crainte de ce qu'on appelle un peu le bank run ou la panique bancaire peut faire basculer le système en quelques heures. De quoi disposent les autorités fédérales si la contagion devenait réelle, surtout à l'ère de Twitter et de Facebook? Semble-t-il que c'est sur Twitter que toutes ces rumeurs s'est amplifiée aussi.
Non, mais là, il est évident que la Silicon Valley Bank avait été mal gérée, et ce qui est plus problématique de mon point de vue, mal surveillée par les autorités fédérales. Donc la panique qui a eu lieu vendredi dernier était peut-être choquante, mais elle était, si vous me pardonnez l'expression, rationnelle. Je crois qu'il n'y a pas de raison de voir des paniques du même type avec ce type de rationalité dans d'autres banques, et de fait, elles n'ont pas lieu aujourd'hui, même s'il y a des tas de gens qui disent des bêtises sur Twitter. On voit que le système n'est pas aussi instable qu'il puisse se faire mettre au tapis, si vous me permettez, par de la pure désinformation. Parce que la mesure qui a été prise par les autorités fédérales de garantir l'ensemble des dépôts, je le répète, à mon avis, elle est excessive, elle n'est pas proportionnelle, elle aurait des conséquences problématiques à l'avenir, dans un avenir qui n'est pas très proche.
Comme quoi ?
Dans l'avenir immédiat, il n'y a pas de problème évident.
Vous remettez un peu en cause le fait que le gouvernement aille au-delà des 250 000 dollars de garantie.
Exactement. Je pense que la Silicon Valley Bank aurait pu être traitée de la manière classique, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs ce que la Federal Deposit Insurance Corporation, la FDIC, avait commencé à faire vendredi. Et le fait d'aller au-delà, d'invoquer une exception qu'on appelle l'exception de risque systémique dimanche soir pour garantir l'ensemble des dépôts, pour moi, est problématique, parce que ça donne un mauvais signal au marché. Ça veut dire que finalement, les investisseurs professionnels, les trésoriers d'entreprises, les milliardaires et millionnaires n'ont pas besoin de faire attention à ce qui se passe dans leur banque. Elles seront de toute manière garanties par l'État. C'est ce qu'on appelle un aléa moral. Et je pense que ça diminuera au cours du temps la stabilité du système financier américain.
Jean-François Cesnec, ces trois banques dont il est question ici sont orientées vers de nouveaux secteurs de l'économie comme la technologie ou même la crypto-monnaie. Y a-t-il une conclusion à en faire?
Je pense pas vraiment, parce que je pense qu'un des problèmes fondamentaux dont on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est que le contrôle des banques est très, très complexe aux États-Unis, et on ne sait pas vraiment qui est responsable. Il est certain que les autorités fédérales auraient peut-être pu faire mieux, mais aussi il faut voir que beaucoup de petites banques surtout sont sous l'autorité des États. Et sous les autorités d'un autre d'une autre organisation qui s'appelle le Controller of the Currency. Et on ne sait pas vraiment, dans le cas de SVC, je ne sais pas vraiment qui était l'autorité qui était responsable du contrôle. Mais dans un sens, les autorités se rejettent le problème, si vous voulez. On ne sait jamais vraiment qui est responsable, surtout qui est responsable des dépôts. Donc, dans le cas de Silicon Valley Bank, il est certain que eux pensaient travailler beaucoup avec les groupes d'électronique et de moderne d'information, et ils pensaient gagner beaucoup d'argent à faire ça, et ils ont été un peu coincés par l'augmentation des taux d'intérêt. Enfin, c'est assez complexe, mais je vois mal je pense pas que ça va vraiment changer la façon dont ils prêtent de l'argent plus tard.
Le gouvernement fédéral avait-il raison d'aller au-delà des 250 000 dollars de garantie avant de... J'ai l'impression que M. Véran veut réagir aussi.
Je pense que M. Véran a tout à fait raison. Il est certain que maintenant, toutes les petites banques vont croire qu'ils sont supportés par le gouvernement fédéral et ça peut créer des problèmes dans le futur management des compagnies. Et je pense qu'il va être obligé de réorganiser la façon dont ces banques sont contrôlées et de mettre ensemble les trois régulateurs qui existent à l'heure actuelle.
Monsieur Véran, vous vouliez réagir avant d'aller à René, Monsieur Véran, par rapport à ce que...
Sur la question de quelles étaient les autorités en charge, en l'occurrence, je serais moins sévère que Monsieur Cesnec, puisque les choses étaient assez claires. La Silicon Valley Bank, pour ne prendre que celle-ci, est une banque qui disposait elle n'existe plus maintenant, d'une charte bancaire de l'État de Californie. Et c'était une banque qui était membre du réseau national de la Réserve fédérale. Donc dans ce cas-là, elle a deux autorités de surveillance principales, l'État de Californie et la Réserve fédérale. Maintenant, dans la manière dont fonctionne le système américain, notamment pour une banque de cette taille, qui n'est quand même pas toute petite, hein, c'était une des 20 plus grandes banques américaines au moment de son effondrement, c'est clairement la Réserve fédérale qui est en première ligne. Donc s'il y a un raté de supervision, comme je crois il est évident que c'est le cas, c'est bien un raté de la Réserve fédérale, à la fois de la Banque régionale à la Banque de Réserve fédérale de San Francisco, mais aussi de la Réserve fédérale à Washington, puisque le système de surveillance en fait est assez centralisé pour les banques de ce type.
D'accord. René ?
Oui, écoutez, Abdulrahman, c'est là où la politique, la finance rejoint la politique. En 2018, ce qu'on appelle les tests de stress sur les banques, l'administration Trump a baissé le niveau auquel elle pouvait se faire. Donc les petites et les moyennes banques, justement, dont SVB, qui est une banque très moyenne, même si c'est la 16e banque, entre parenthèses, aux États-Unis, il n'était plus exigé qu'une banque à ce niveau-là fasse ce stress test. Et c'est ça qui explique qu'ils ont pu passer au fond à travers les mailles du filet. Alors c'est ça la question qui est posée. Mais pour revenir sur le point de la garantie des dépôts, attention, le gouvernement a été très très clair. Il n'est pas question d'avoir un plan de sauvetage pour les actionnaires, donc les actionnaires des banques, les managers des banques. La garantie des dépôts, c'est uniquement pour les clients, pour éviter que, justement, les dépôts personnels et les dépôts d'entreprise soient, en fait, passés à perte et profit.
Donc, on va revenir sur la question de la réglementation en seconde partie. Nous avons quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Alors, on va commencer par Yao Marcelin Kofi, qui est à Abidjan, et qui nous dit « La faillite de ces trois banques américaines met à nu les imperfections de ce secteur. Heureusement que les autorités américaines ont pris des mesures adéquates comme le remboursement des dépôts des clients et la limitation de l'effet de choc afin de dissiper la panique généralisée au sein de la clientèle. » Archiduc Théodore est à N'Djamena au Tchad. Il écrit « La faillite d'une banque apporte plus d'inquiétude pour les investisseurs, les salariés, les clients ou les fournisseurs. » Les paroles du président américain ne rassurent pas à 100%. Enfin, Lassina Kone à Abidjan, il nous dit « L'État américain ne doit pas abandonner les investisseurs et soulager les clients. Un client est aussi un investisseur, se demande-t-il. Est-il aussi un investisseur? Le capitalisme est trop bizarre, pense-t-il. » Alors, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Salut Dini.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités. Ici à Washington, Nicolas Véron, chercheur à l'Institut Peterson d'économie internationale, toujours dans la capitale fédérale américaine. René Leck, analyste politique et consultant. Et à Annapolis, dans l'État de Maryland, Jean-François Seznec, économiste, politologue et directeur de Lafayette Group. Alors, Nicolas Véron, avant la pause, on a vu un téléspectateur de Côte d'Ivoire qui semblait mettre en cause un peu le capitalisme dans cette mini-crise bancaire, si on peut l'appeler ainsi. Est-ce qu'il s'agit de cela ou plutôt d'une simple mauvaise gestion ?
Non, je crois que c'était un bon commentaire et qu'effectivement, ce qui est en cause dans la crise elle-même et dans la réaction des autorités fédérales, c'est le capitalisme, le fait que les banques, les trésoriers d'entreprises, les individus fortunés doivent gérer leur argent professionnellement et avoir une vraie gestion des risques. Alors les petits déposants, les ménages, les gens normaux qui ont moins de 250 000 dollars sur leur compte, ils sont exemptés de cette responsabilité de gestion et je crois que c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'il y a une garantie des dépôts on l'a depuis les années 30 aux États-Unis. Mais en revanche, lorsque vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars en banque, ce qui était le cas de pas mal de clients de la Silicon Valley Bank, ben, il faut les gérer professionnellement et faire attention à ce que vous les ayez dans une banque de bonne réputation. Ça fait partie du capitalisme. Et donc, là-dessus, je suis un peu plus sévère que M. René Leck, puisque je pense que enlever cet élément de discipline de marché, si vous voulez, de demander aux gens de gérer l'argent professionnellement, ça rend le système plus instable, pas plus stable, et c'est ce que les autorités fédérales ont fait, pas seulement pour Silicon Valley Bank et pour Signature Bank, puisque une fois qu'elles l'ont fait pour ces banques qui, comme ça a été dit, sont des petites banques, ça veut dire qu'en fait c'est pour l'ensemble du système bancaire. Donc je pense que le système est devenu plus fragile à cause de cette garantie illimitée, mais évidemment, ses conséquences, elles vont se déployer dans le temps, pas dans les prochains jours, même pas dans les prochaines semaines. Ce sont des conséquences à long terme sur la discipline de marché dans le système, pour prendre le terme technique, et c'est pour ça que je suis critique.
D'accord, René Leck aura sa chance, mais Jean-François Seznec, la question de la réglementation du système bancaire revient un peu au devant de la scène depuis la semaine dernière avec ses faillites. Faut-il renforcer la réglementation et si oui, quelles peuvent être les conséquences pour quelles peuvent être les conséquences pour la clientèle?
Ben écoutez, je pense que ce que dit Olivier Véran est tout à fait vrai. Ça crée un problème pour le système en général, parce que si vraiment le gouvernement est censé garantir tous les dépôts de tous les déposants américains de toutes les petites banques, et ça crée des problèmes impossibles à gérer. Donc, il va falloir trouver un nouveau système de réglementation et je pense qu'ils vont chercher ça très fort pour voir comment limiter un peu la garantie générale qui a été faite à tous les déposants. Je pense qu'ils vont peut-être augmenter le montant de 250 000 dollars qui avait déjà été monté en 2018 de 100 000 dollars. Ça aidera peut-être en disant, ben écoutez, après ça, on ne garantit plus les dépôts et que les gens fassent un peu attention où est-ce qu'ils mettent leur argent. Enfin, les compagnies un peu moyennes qui ont plus d'argent que le minimum garanti.
Donc, des banques qui ont grandi un peu plus vite
Oui, bien sûr. C'est les banques qui ont grandi énormément sur ce système comme le Sovereign Silicon Valley Bank, bien sûr, vont être pris à contre-pied là, dans ce cas. Il va falloir vraiment faire un gros effort pour contrôler l'augmentation des actifs dans les banques.
D'accord. Alors René, est-ce qu'on va vers une nouvelle bataille politique au Congrès sur cette question de la régulation bancaire? Est-ce qu'il y a eu un relâchement dans les textes, selon vous?
Oui, en fait, il y a eu une dérégulation en 2018. J'ai entendu hier Bernie Sanders qui revient justement à la charge parce qu'il faisait partie des sénateurs qui étaient totalement opposés à cela. Parce qu'il faut dire qu'il y a un problème qui est global, c'est que les stress tests en question, les tests de stress en question pour les banques, ils coûtent très très cher. Donc quand vous êtes une très grande banque, que vous avez 4 000 4 000 milliards de dollars d'actifs, bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez, vous avez des économies d'échelle qui font que ça ne vous coûte pas très cher. Mais quand vous êtes une petite banque comme SVB à 200 milliards d'actifs ou encore la Signature Bank qui est à 100 milliards d'actifs, ça coûte très cher de faire ces tests-là. Donc c'est une question qu'il faudra certainement régler et qui va se reposer politiquement au niveau du Congrès. Mais encore une fois, Abdourahmane, j'insiste sur la situation suivante. Il faut que vos téléspectateurs comprennent bien de quoi on parle quand on parle de garantie des dépôts. Les dépôts, ce n'est pas justement seulement des gens qui ont beaucoup d'argent. Quand une entreprise dépose son argent pour payer les salaires, il y a disons 10 millions de dollars dans le compte de l'entreprise. S'il n'y a pas la garantie de ces 10 millions de dollars par la FIDC, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que maintenant le balayeur, le technicien, le petit employé de cette entreprise, il ne peut pas être payé parce que l'entreprise n'a pas accès à son argent. Donc quand vous prenez des gens comme là, il y a 6 000 employés dans cette banque. Maintenant, si vous voyez le nombre d'employés des petites entreprises qu'il y avait dans la SVB, si tous ces gens n'avaient pas leur argent garanti, ça pourrait être une catastrophe aussi pour les gens qui ont des revenus très bas. Donc il faut bien comprendre comment le système de garantie fonctionne et savoir encore une fois que le gouvernement l'a limité exclusivement à ces banques. Il n'a jamais dit que c'était étendu maintenant à l'ensemble des banques.
Mais et ça, on ne sait jamais.
L'administration a insisté sur ce point encore hier soir en disant attention. Et c'était même sous-entendu, ce n'était même pas explicite que ça allait se faire même pour eux.
Alors on n'a pas beaucoup de temps, Monsieur Véran, vous pouvez réagir. Nous avons 2 minutes. Je vais faire un dernier tour de table.
Je crois qu'il faut vraiment éclairer nos téléspectateurs. Peu importe dans la finance, ce qui importe, ce sont les signaux et les précédents. Peu importe que le gouvernement dise, c'est seulement pour Silicon Valley Bank et Signature Bank. René Lake nous a rappelé que ce sont des petites banques. Ça veut dire que n'importe quelle autre petite banque aura le même traitement, évidemment. Parce que s'il y a une autre petite banque qui fait faillite et qui n'a pas le même traitement, là, vous aurez une grande panique. Parce que maintenant, vous avez créé des attentes qui est que ben, quand vous avez un gros dépôt, vous allez être remboursé en totalité. Et lorsque René Lec dit... Excusez-moi. Lorsque René Lec dit ce sont les petites gens qui sont en cause, non. Il y a des gestions techniques de trésorerie pour justement éviter d'être à risque sur des gros dépôts. Et c'est ce que font toutes les entreprises bien gérées. Ce qu'on a appris dans cet épisode, c'est que beaucoup de start-up de la Silicon Valley avaient une gestion de trésorerie complètement non professionnel et franchement, si on croit aux capitalistes, ces entreprises n'auraient pas dû être enflouées.
Alors, M. Seznek, aidez-nous à jouer un peu les arbitres ici.
Je ne veux pas être trop un arbitre parce que je pense que M. Véran a totalement raison. Je suis un ancien banquier moi-même. J'ai été banquier pendant 25 ans dans des petites banques et je peux vous assurer qu'il est certain qu'il faut absolument que les clients aient une gestion de leurs fonds. Mais effectivement, il faudrait voir que les banques qui grandissent trop vite et offrent trop à leurs clients soit vu comme étant tel par les autorités fédérales et locales, bien sûr. Peut-être plus par les autorités locales qui connaissent bien les marchés locaux et qui connaissent bien les gens qui non seulement investissent dans ces banques et aussi les clients.
Alors, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés tous les trois, moi personnellement et certainement à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers nos télépartenaires en Afrique, sur notre page Facebook de VO Afrique et également sur YouTube et toutes nos plateformes digitales. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Merci à vous trois. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.